Les élèves de 3e B du collège de la Ville Marquée à Quimperlé vous présentent leur projet Rumpoldoc. Ils vous ont concocté une enquête policière scientifique à découvrir dans 6 podcasts. Mais ce n'est pas fini. Ils vous ont aussi créé des chorégraphies à découvrir dans 5 vidéos. Ils vous entraînent dans l'univers d'un savant fou, le professeur Fanchik, où vous croiserez des personnages atypiques, des informations scientifiques sur l'ADN fossile et le mystérieux vol d'un spécimen d'espèce disparu. Mais pour l'instant, parlons évolution. Moi, Charles Darwin, j'ai fait le déplacement jusqu'au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour admirer le spécimen d'Anchiornis BMNHCPH828, prêté exceptionnellement pour une exposition temporaire par le Musée d'Histoire Naturelle de Pékin.
Bonjour, chers auditeurs.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le célèbre Monsieur Darwin,
qui revient par miracle et temporairement
du 19e siècle,
pour échanger avec nous à propos de ses illustres travaux.
Eh bien, bonjour Monsieur Darwin.
Bonjour, est-ce que je peux vous faire une petite demande? Est-ce que vous auriez la gentillesse juste de m'appeler Charles? Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Je vous écoute.
Très bien. Donc, Charles, vous êtes un scientifique émérite et célèbre théoricien de l'évolution des êtres vivants par sélection naturelle. Théorie de nos jours solidement avérée. Mais avant d'en parler plus longuement, une question toute simple. Pourquoi aimez-vous tant la nature?
La nature est magnifique. Vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, quand j'étais enfant, j'avais 8 ans, j'ai perdu ma mère. Et pour l'enfant que j'étais, ce fut un cataclysme. Et c'est la nature. Oui, c'est la nature qui m'a souvent aidé à ne pas me sentir seul. Je galopais à cheval dans la campagne avec mon chien, je collectionnais les pierres, je prélevais des plantes que je rangeais précieusement dans un herbier. Je n'avais qu'une idée en tête, découvrir toutes les espèces qui existaient sur cette terre.
Revenons un peu sur votre parcours. Quel a été votre rapport aux études et à l'école?
Voyez-vous, j'ai toujours aimé la liberté, et à part les leçons de botanique, je me sentais comme emprisonné à l'école. Je ratais jamais une occasion de rester dehors. À l'âge de 16 ans, mon père m'envoie en Écosse, à Édimbourg, pour que j'étudie la médecine, comme lui. Hélas, j'avais horreur du sang. Je sentis très vite que je n'étais pas fait pour ce métier. Alors je pars pour Cambridge, une des meilleures universités anglaises, pour entamer des études de théologie, devenir pasteur. Alors je suis croyant, mais encore, là, je ne me sens pas intéressé. Je passe le plus clair de mon temps dans la nature. D'ailleurs, on m'appelait le grand collectionneur de coléoptères.
Et puis, Monsieur Darwin, il y a eu cette fameuse lettre.
Un de mes meilleurs amis, Henslow, me propose un voyage de 2 ans sur un bateau, le Beagle, HMS Beagle, qui avait pour mission de cartographier l'Amérique du Sud. Alors mon père est inquiet, bien entendu, il s'y oppose d'abord, arguant du danger et de l'inutilité de ce voyage à ses yeux, sans parler du coup. Mon oncle intercède et le convainc de la chance que l'opportunité représentait. J'allais pouvoir embarquer. Et ce voyage qui finalement durera 5 ans fut un des événements, voyez, les plus marquants de ma vie.
Prenez la mer le 27 décembre 1831, si je ne me trompe pas.
C'est exact. J'avais pas le pied marin, comme on dit. Et malgré cela, j'aimais la vie à bord du Beagle. Toute cette nature, toutes ces espèces nouvelles, un émerveillement et une source intarissable de questionnements et de réflexions. Et de là a germé cette extraordinaire idée, cette théorie novatrice.
Alors, selon votre théorie, la diversité du vivant est due à une multitude de petits changements,
oui,
de leurs caractéristiques physiques, mais oui, surtout due à un processus extrêmement long.
C'est exact. Laissez-moi vous donner un exemple. Au cours de mon voyage, lors d'un arrêt dans les îles Galapagos, l'Amérique du Sud, l'océan Pacifique, on est à 1000 km au large de l'équateur, dans un ensemble d'environ 130 îlots, rochers, ce qu'on appelle un archipel. Bon, nous sommes là en septembre 1835, et je vois des iguanes terrestres, je vois des tortues géantes et cette espèce d'oiseau, le pinson. Oui, des pinsons. Alors je m'attarde notamment à observer leur bec et je remarque que la forme de leur bec varie en fonction de l'île sur laquelle ils vivent. Certains becs sont puissants et massifs, tandis que d'autres sont fins et pointus.
Et un spécialiste des oiseaux, l'ornithologue John Gould, me confirmera par la suite qu'il s'agissait d'espèces différentes. Et ces différences sont à mettre en lien avec leurs conditions de vie qui induisent un régime alimentaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, les gros becs sont nécessaires pour casser de solides graines. Les plus petits, les plus fins, s'expliquent par une alimentation à base d'insectes. Un exemple magnifique d'adaptation au milieu de vie et d'isolement géographique. Je vois là les bases de ma théorie sur l'évolution des espèces. La sélection naturelle, idée révolutionnaire.
Avez-vous découvert des fossiles aussi ?
Oui. Oui, le glyptodon. Vous connaissez le tatou. Le tatou, vous voyez, ce mammifère étrange dont le corps est recouvert entièrement de plaques osseuses et de cornes. Excellent moyen pour se protéger du danger et des prédateurs, et l'homme en particulier. Eh bien, ce glyptodon, en quelque sorte, est l'ancêtre du tatou. Mais alors, bien plus gros. Et j'ai convaincu Fitzroy de rapporter son crâne à bord du Beagle, malgré sa taille. Pas une mince affaire. Au total, j'ai ramené 1529 espèces d'animaux et plus de 3900 échantillons de plantes.
Nous pourrions vous écouter pendant des heures entières, cher Charles. Mais le temps nous est compté. Revenons-en aux fossiles. À l'occasion de votre venue pour l'exposition temporaire au Muséum d'Histoire Naturelle sur l'Anchornis, ce dinosaure presque oiseau, nous nous posions la même question.
S'il avait vécu dans un autre environnement ou s'il avait été encore en vie actuellement, ce dinosaure, comment aurait pu-t-il évoluer selon vous ?
À mon sens, je dirais que l'Anchornis aurait pu avoir les prémices du vol, comme une poule. Mais il aurait pu également grandir et atteindre la taille des flamants roses. En fonction de son lieu de vie, la couleur de ses plumes se serait modifiée. De même que la forme de son bec, qui aurait changé en fonction de ses proies.
Merci pour vos réponses, Charles.
J'en prie.
Elles nous ont permis de mieux comprendre votre vie et votre théorie.
Tout cela est absolument passionnant.
Merci à vous. Et si vous êtes prêts pour vous lancer dans l'aventure, eh bien embarquez avec moi pour une immersion immédiate grâce à la vidéo numéro 1 où vous découvrirez l'acolyte de notre savant fou, Max, un complice légèrement maladroit et quelque peu limité.